Imaginons un instant la scène. C'est l'histoire d'un grand chef étoilé qui passe genre 30 ans de sa vie à perfectionner une seule recette. Un truc avec un équilibre absolu de saveur, quelque chose de totalement inédit.
Ouais, le travail de toute une vie, quoi.
Exactement. Et puis, une nuit, il y a une machine qui s'infiltre dans sa cuisine, qui scanne son cerveau et qui télécharge non seulement cette fameuse recette, mais aussi toutes ses techniques. Et le pire, c'est qu'elle ouvre un immense restaurant juste en face.
Ah oui, le cauchemar absolu.
Un restaurant qui sert exactement les mêmes plats, instantanément et quasiment gratuitement en fait. Du coup, le lendemain matin, notre chef étoilé, il est en faillite. Et ce scénario, c'est pas du tout le pitch d'une mauvaise série de science-fiction.
Non, c'est clair.
C'est exactement littéralement ce qui est en train de se passer en ce moment, même pour des millions d'illustrateurs, d'écrivains, de photographes ou même de codeurs. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une guerre silencieuse, mais d'une violence inouïe.
Une vraie guerre de tranchées, oui.
C'est ça, une guerre totale, à la fois juridique et technologique, entre d'un côté les créateurs humains et de l'autre les titans de l'intelligence artificielle générative.
Et le champ de bataille est vraiment fascinant parce qu'il oppose deux forces qui semblent totalement irréconciliables aujourd'hui. D'un côté, on a cette innovation technologique dont la vélocité dépasse l'entendement. Faut se rendre compte que ces modèles d'IA, ils se contentent plus de balbutier.
Ah non, ils génèrent du code parfait, des images qui gagnent des concours d'or.
Exactement. Et de l'autre côté, on a un des piliers fondamentaux de notre civilisation, en fait, le droit d'auteur. Et le gros problème, c'est que le code pénal et les traités internationaux, ils ont été rédigés pour un monde où le sommet de la technologie, c'était la machine à écrire, tu vois.
Ouais, ça date un peu.
Un peu, oui. Donc aujourd'hui, tout ce cadre juridique est littéralement en train d'imploser sous la pression de l'algorithme.
Et c'est justement pour ça qu'on a un dossier assez épais sur la table aujourd'hui. On va pas juste survoler le sujet, on a épluché une résolution très très agressive du Parlement européen qui date de tout récemment, le 10 mars 2026.
Une résolution qu'on a d'ailleurs croisée avec une analyse super pointue.
Ouais, la note rédigée par le cabinet d'avocats Nomos. Et surtout, on a décortiqué un rapport législatif du Sénat français d'avril 2026. La mission, c'est de comprendre comment l'Europe, et plus particulièrement la France, en fait, tente de réécrire les règles de l'Internet. Et ce, avant que l'économie de la création humaine ne s'effondre totalement.
Parce que les chiffres donnent vraiment le vertige.
Ah c'est massif. La note de Nomos et la résolution européenne, elles rappellent bien que le secteur créatif, c'est pas juste un truc de niche, c'est une industrie lourde. On parle de environ 4% de la valeur ajoutée européenne.
C'est même 6,9% du PIB de l'Union européenne si l'on prend vraiment l'écosystème au sens large. On a souvent cette image un peu romantique de l'artiste isolé dans sa mansarde avec ses pinceaux.
Le peintre maudit, quoi.
Voilà. Mais la réalité économique, ce sont 8 millions d'emplois en Europe. 8 millions de personnes qui découvrent aujourd'hui que leur travail quotidien, leur portfolio, leurs articles, tout ça a été utilisé comme matière première gratuite.
Et c'est là qu'il faut bien comprendre la mécanique technique derrière ça pour nos auditeurs. Parce que les entreprises d'IA, elles les engagent pas des critiques d'art pour étudier les œuvres une par une.
Ah non, ce serait beaucoup trop long et cher. Elles utilisent ce qu'on appelle le web scraping ou le moissonnage de données. En gros, ce sont des armées de robots informatiques qui parcourent le web en permanence. Ils aspirent des pétaoctets de données, des textes, des images, du son, tout y passe.
Tout est ingurgité.
Tout. Sans aucune autorisation de la part des créateurs. Et évidemment, sans la moindre rémunération pour les auteurs originaux.
Et il faut préciser un point crucial sur la façon dont l'IA apprend, si on revient à notre métaphore du cuisinier du début.
Ouais, la fameuse recette.
En fait, la machine, elle fait pas un simple copier-coller de la recette. Ce serait trop simple de la coincer. Elle décompose le travail du chef en milliards de probabilités statistiques. Elle analyse par exemple comment le trait d'un pinceau ou le choix d'un adjectif s'agence avec un autre.
C'est de la pure mathématique appliquée à l'art, en fait.
C'est ça. Mais à la base de ces statistiques, il y a bien le génie humain qui a été aspiré à la source. Or, quand on lit le rapport du Sénat français, franchement, on a l'impression que ce hold-up monumental ait été rendu possible par une sorte de passoire juridique européenne.
Ce qui est fascinant ici, c'est que ce siphonnage massif s'appuie effectivement sur une loi, mais une loi qui a été totalement détournée de son objectif initial.
Attends, une loi qui autorise ça.
Oui. En 2019, l'Europe a adopté une directive qui créait une exception au droit d'auteur pour la fouille de textes et de données. C'est ce qu'on appelle le TDM dans le jargon.
Ok, le TDM, mais c'était quoi le but à l'époque?
Pour bien visualiser le truc, imagine une règle dans une bibliothèque nationale qui dirait en gros, les chercheurs universitaires ont le droit de feuilleter rapidement tous les livres pour faire des statistiques sur l'usage des mots. et ce, sans payer de droits d'auteur.
Ah, donc l'intention de base était noble. C'était pour aider la recherche scientifique.
Exactement, c'était pour la science. Sauf que les géants de la tech sont arrivés dans cette belle bibliothèque avec des scanners industriels énormes. Ils ont numérisé absolument tous les ouvrages et ils ont utilisé ces données pour construire des machines capables de rédiger et de vendre des livres concurrents.
L'arnaque parfaite.
C'est ça. Ils ont transformé une petite exception pensée pour des chercheurs en un modèle d'affaires de plusieurs milliards de dollars.
Mais la loi de 2019 prévoyait quand même un bouclier pour les auteurs, non? Le fameux système de l'opt-out dont on entend tout le temps parler.
Oui, l'opt-out.
L'idée qu'un auteur pouvait accrocher en gros une petite pancarte virtuelle sur son œuvre en disant « Interdit au robot d'IA, ne me touchez pas ».
Alors, en théorie, oui, le mécanisme existe bien. Mais en pratique, le constat du Sénat français est juste sans appel. L'opt-out, c'est une fiction juridique totale.
Pourquoi ?
Ça marche pas.
C'est totalement inopérant à cause de l'opacité des développeurs d'IA. Ces modèles, ils sont entraînés sur des bases de données tellement colossales qu'elles deviennent ce qu'on appelle des boîtes noires.
On sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. Voilà. Les entreprises refusent catégoriquement de détailler le contenu. Très souvent en invoquant le sacro-saint secret des affaires, ou alors en disant que c'est d'une complexité technique insurmontable.
Ce qui crée une situation complètement absurde.
Mais oui! Comment tu veux qu'un illustrateur indépendant, tout seul dans son coin, puisse exercer son droit de retrait? Comment il peut s'opposer à l'utilisation de son dessin s'il n'a techniquement absolument aucun moyen de vérifier si son dessin a été aspiré dans un océan de milliards d'images?
C'est d'un cynisme absolu. C'est comme si on disait au créateur « Bon, vous avez tout à fait le droit de vous défendre, mais on éteint la lumière, on vous bande les yeux et on vous cache le nom de l'agresseur. Débrouillez-vous. »
C'est exactement le sentiment général.
La grande que l'Europe a fini par réagir, et pas qu'un peu. Le 10 mars 2026, le Parlement européen a vraiment tapé du poing sur la table avec cette fameuse résolution.
Celle portée par le rapporteur Axel Voss, oui.
Oui, Axel Voss. Et là, le changement de ton est radical. Le mot d'ordre, désormais, c'est la transparence au forceps. Fini de rigoler.
Absolument. Le Parlement exige, noir sur blanc, que les fournisseurs d'IA publient des listes détaillées et surtout compréhensibles de toutes les œuvres protégées qui ont été exploitées lors de l'entraînement.
Donc on oublie l'excuse du « c'est trop compliqué techniquement ».
C'est fini ça. Ils veulent aussi imposer un marquage systématique des contenus générés.
Le fameux « watermarking ».
Voilà, il faut que le public sache de manière transparente et immédiate s'il regarde une vraie photographie prise par un humain ou bien une image synthétisée par une machine.
Et un autre truc très fort dans ce texte. Surtout, la résolution tranche un débat philosophique super profond. Elle dit que les contenus générés à 100% par une intelligence artificielle ne peuvent pas bénéficier du droit d'auteur. Point final.
Oui, parce que la propriété intellectuelle par essence, ça exige une empreinte humaine, une création de l'esprit.
Et l'algorithme n'a pas d'esprit ?
C'est exactement l'argument. L'algorithme calcule, il ne crée pas.
Et alors, pour gérer tout ce chaos monumental, la résolution veut transformer l'EIPO, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, en une sorte de super shérif ou de tour de contrôle.
C'est un rôle énorme qu'on leur propose là.
Ouais. L'idée, ce serait de créer un intermédiaire de confiance qui centraliserait enfin ces fameux opt-out sur une base des données unique. Et surtout, lisible par les machines. Mais c'est pas tout. Mieux encore, l'EIPO pourrait forcer la création de licences globales, secteur par secteur, pour qu'il y ait enfin des flux financiers qui redescendent vers les vrais créateurs.
Une redistribution des richesses, en somme.
C'est ça. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que si on lit attentivement la note du cabinet Nomos, dont on parlait, bah, il casse un peu l'ambiance, en fait.
Ah, des avocats ont toujours le don pour ça.
Il souligne en rouge vif que cette résolution parlementaire de mars 2026 est dépourvue de toute valeur contraignante. En gros, c'est un vœu pieux, on n'impose rien, on suggère gentiment. Alors, est-ce que ce n'est pas juste un tigre de papier? Je veux dire, un grand discours politique sur une estrade, mais sans aucune conséquence réelle pour les géants de la tech.
Bah, c'est l'argument classique des sceptiques, et c'est compréhensible. Mais il faut vraiment regarder comment la machine législative européenne fonctionne en interne.
C'est-à-dire ?
Une résolution non contraignante au Parlement européen, ce n'est jamais juste un bout de papier qu'on oublie dans un tiroir. C'est un signal d'alarme politique majeur, et ça pose en fait l'architecture idéologique des futures directives.
Donc c'est les fondations.
Voilà. Axel Voss martèle un principe super simple et puissant. L'innovation technologique ne peut pas primer sur l'état de droit.
Donc, si le cabinet Nomos relativise un peu la force immédiate du texte, il reconnaît quand même que l'Europe trace une ligne rouge très claire. Le marché intérieur européen, qui est, rappelons-le, l'un des plus lucratifs au monde...
Ah oui, ils peuvent pas s'en passer.
Eh bien, ce marché refuse de devenir le Far West de l'IA générative.
Sauf que, le Far West, on y est déjà un peu, non? Parce que ce coup de sang du Parlement en 2026, il s'explique aussi par un énorme sentiment de frustration vis-à-vis du passé très récent.
Tu penses au fameux EA Act ?
Exactement. Le rapport du Sénat français d'avril 2026 est d'ailleurs d'une sévérité assez rare envers ce règlement européen sur l'IA, l'IA Act, qui est entré en vigueur en août 2025. Le Sénat le qualifie carrément de texte moins disant sur la question brûlante du droit d'auteur.
Oui, le Sénat français est très très amer sur ce coup-là. Et franchement, on peut comprendre pourquoi si l'on regarde un peu ce qui s'est passé en coulisses.
Il y a eu des pressions.
Oh, un lobbying féroce. Pendant toutes les négociations de l'IA Act, les entreprises technologiques ont sorti l'artillerie lourde. Leur argument, c'était de dire aux législateurs « Si vous nous imposez une transparence totale sur nos données d'entraînement, vous allez juste tuer l'innovation européenne dans l'œuf et on va se faire écraser par les États-Unis et la Chine. »
Le chantage classique à la compétitivité, quoi.
C'est ça. Résultat des courses, le texte final de 2025 exige bien un soi-disant résumé des données d'entraînement, mais les critères sont tellement vagues, tellement dilués, que ça ne permet toujours pas aux auteurs d'identifier concrètement si leurs œuvres spécifiques ont été exploitées.
Donc, en gros, le bouclier européen est bien arrivé, mais il était déjà plein de trous.
Un vrai gruyère.
Et c'est précisément là que la France décide de faire cavalier seul, ou du moins de jouer un peu les éclaireurs pour le reste du continent. Puisque l'Europe patine avec des résolutions non contraignantes et un règlement de 2025 complètement édulcoré, le Sénat français a déposé une proposition de loi pour modifier directement son propre code de la propriété intellectuelle.
Une initiative très audacieuse.
Et l'arme qu'ils ont trouvée, franchement, elle est d'une brutalité juridique fascinante. C'est ce qu'ils appellent la présomption d'exploitation.
Ah oui, ça, c'est le point d'orgue du rapport sénatorial. C'est majeur.
Explique-nous un peu comment ça marche.
Pour contrer l'opacité des IA dont on parlait tout à l'heure, les sénateurs ont décidé de renverser la table. Et plus précisément, de renverser la charge de la preuve.
Ce qui est énorme en droit.
C'est énorme. Le mécanisme qu'on appelle une présomption réfragable dans le jargon juridique, ça fonctionne comme ça. Si une IA génère un texte qui ressemble étrangement à un style très spécifique d'un journaliste précis...
Ou une image qui reprend exactement la patte, les couleurs d'un illustrateur connu.
Voilà. Dans ce cas-là, la justice française présumera automatiquement que l'entreprise d'IA a utilisé ses œuvres pour s'entraîner. Ce n'est plus au pauvre auteur, qui n'a pas accès au serveur fermé, de prouver qu'il a été volé.
C'est le monde à l'envers, mais dans le bon sens.
C'est ça. C'est à l'entreprise technologique géante de prouver, et de démontrer techniquement, qu'elle n'a pas utilisé cette œuvre.
Attends. Faut vraiment s'arrêter là-dessus deux secondes. Je comprends tout à fait l'intention, qui est de protéger le petit créateur contre le titan de la tech, mais sur le plan purement technique, on demande à une entreprise d'ouvrir une base de données qui contient, littéralement, des milliards d'entrées. Quasiment une grande partie d'Internet, quoi.
Oui, des bases titanesques.
Et on leur demande de prouver qu'un élément ultra spécifique, une petite aiguille, ne se trouve pas dans cette botte de foin monumentale. C'est demander de prouver l'absence d'un truc. N'est-ce pas une aberration technique totale qui va juste conduire à des procès interminables et impossibles à juger ?
Alors, ça y ressemble. Mais si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la logique des sénateurs est en réalité implacable. Et même très cynique.
Comment ça ?
Posons-nous la question. Que font ces entreprises technologiques toute la sainte journée ? Quel est leur modèle économique fondamental depuis 10 ans ?
Bah, gérer de la donnée, non ?
Exactement. C'est l'indexation, le tri et l'analyse massive de données. Leurs architectures sont conçues pour trouver des corrélations infimes dans des pétaoctets d'informations, et ce, en une fraction de seconde.
C'est leur cœur de métier.
C'est leur super pouvoir. Le législateur leur dit donc, vous ne pouvez pas nous vendre la magie d'une technologie omnisciente et surpuissante d'un côté, pour lever des milliards en bourse, et de l'autre côté plaider l'ignorance ou l'incompétence technique quand un juge vous demande de regarder dans vos propres registres.
Ah ouais, vu comme ça, c'est imparable.
Ils ont la capacité technique de savoir ce qu'ils ingurgitent. S'ils ne le font pas, ou s'ils ne veulent pas le dire, c'est un choix de conception de leur part, pas une fatalité technique.
Donc en fait, le Sénat ne cherche pas forcément à multiplier les procès avec cette loi. Ils utilisent cette présomption légale comme une sorte d'énorme massue pour forcer les négociations ?
Exactement. Le but ultime, c'est de corriger l'immense asymétrie d'informations qui existe aujourd'hui.
David contre Goliath.
Voilà. En agitant la menace d'une condamnation quasi automatique si la fameuse boîte noire reste fermée, la France veut contraindre les fournisseurs de modèles d'IA à sortir du bois, à venir s'asseoir à la table des négociations. L'objectif final, c'est d'aboutir à des accords de licence globaux. On veut que les entreprises paient pour la matière première, tout comme une usine automobile paie pour l'acier qu'elle transforme.
C'est logique, mais on en revient toujours à l'argument du lobbying qu'on évoquait tout à l'heure avec l'IA Act. Des règles aussi strictes, avec un renversement de la charge de la preuve, la menace permanente des juges, franchement, on pourrait se dire que l'Europe, et la France en particulier, est en train de s'auto-saboter.
De se tirer une balle dans le pied.
C'est ça. Qu'on va juste faire fuir l'innovation, que les labos vont déménager et qu'on va laisser les géants américains et asiatiques dominer totalement le monde de l'intelligence artificielle pendant que nous, en Europe, on rédige gentiment des amendements.
C'est la peur classique et c'est le discours de l'industrie. Mais le rapport du Sénat affirme vigoureusement le contraire. Il propose ce qu'ils appellent une troisième voie européenne.
Et ça consiste en quoi face aux Américains ?
Regardons le modèle américain, justement. La note de Nomos l'analyse très bien. Aux États-Unis, le développement de l'IA s'appuie principalement sur la doctrine du « fair use », l'usage loyal.
C'est assez souple, ça, non ?
Ce même très flou. Ce n'est pas une règle stricte, c'est une ligne de défense qui s'apprécie au cas par cas devant un tribunal. La conséquence de ça, les entreprises américaines naviguent aujourd'hui à vue dans un océan d'insécurité juridique totale.
Ah oui, avec tous les procès en cours.
Exactement. Elles accumulent les class action, les procès collectifs d'auteurs, d'éditeurs de presse comme le New York Times, de codeurs. C'est un modèle de confrontation permanente et ça coûte des fortunes en frais d'avocat.
Le modèle européen avec cette troisième voie chercherait donc à pacifier tout ça, à créer une sorte de label de qualité ?
C'est le grand pari stratégique. L'idée, c'est de créer un marché de l'IA qui soit éthique by design, c'est-à-dire dès sa conception. Si une IA européenne garantit que toutes ses données sont tracées et qu'elles sont légales et que les auteurs sont rémunérés, eh bien elle offre une sécurité juridique absolue aux entreprises qui vont l'utiliser ensuite.
C'est un sacré avantage concurrentiel pour les entreprises qui ne veulent pas se retrouver au tribunal.
Bien sûr. Et au-delà de la morale ou du droit pur, c'est aussi un impératif technologique. Et c'est là qu'on touche, je pense, au point le plus crucial de toute cette histoire.
Ah !
C'est la survie même de la technologie IA qui est en jeu.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Parce qu'il y a ce concept vertigineux qui est évoqué dans nos documents, c'est le risque de dégénérescence des modèles.
Oui, le modèle collapse.
Parce que si on suit la trajectoire actuelle du Far West, imaginons, l'IA pille les données. Les créateurs humains ne peuvent plus du tout gagner leur vie, donc ils arrêtent de publier de nouveaux articles, de nouvelles musiques, de nouvelles images. Internet se remplit alors quasi exclusivement de contenus générés par l'IA.
C'est déjà un peu le cas.
Oui. Mais la conséquence directe de ça pour l'avenir, la prochaine génération d'IA va devoir s'entraîner sur des données qui ont été créées par la précédente génération d'IA.
C'est exactement le phénomène de l'effondrement du modèle. Et c'est terrifiant pour l'industrie technologique. Les chercheurs ont prouvé que les modèles d'apprentissage automatique ont un besoin absolument vital d'ingérer de la donnée humaine fraîche.
De la vraie donnée.
Oui, avec ses imperfections, ses intuitions bizarres, sa complexité, son humour. Si une IA s'entraîne en boucle sur des données synthétiques générées par une autre IA, les défauts statistiques s'amplifient à chaque nouvelle génération.
Ça tourne en rond.
Pour reprendre une image du rapport, c'est comme faire la photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Au début, bon, on perd juste un peu de contraste, c'est pas grave. Mais au bout de 10 générations, on n'obtient plus qu'une grosse bouillie de pixels gris et illisibles.
Concrètement, pour nos auditeurs, ça veut dire que le chatbot que n'importe qui utilise tous les jours au bureau pour rédiger un mail ou corriger du code, il risque de devenir complètement idiot d'ici quelques années s'il n'a plus accès à l'intelligence humaine pour se mettre à jour.
Parfaitement idiot, oui. La qualité des réponses va se dégrader fortement, les fameuses hallucinations vont se multiplier et la technologie perdra au final toute sa valeur commerciale. C'est pour cette raison précise que la démarche du Parlement européen et du Sénat français n'est pas qu'un simple acte de charité envers les artistes de Montmartre, tu vois.
C'est du pragmatisme pur et dur.
Exactement. Payer les créateurs, protéger rigoureusement le droit d'auteur, c'est littéralement garantir la pérennité de l'industrie de l'IA elle-même. La Silicon Valley a viscéralement besoin que la créativité humaine reste un métier financièrement viable.
Sinon, la source se tarit.
Sans cette sève humaine renouvelée en permanence, la machine s'asphyxie et finit par s'effondrer sur elle-même.
C'est quand même l'ironie ultime de cette décennie. Ces géants de la technologie qui ont bâti tous leurs empires sur l'adage « avance vite et casse tout », ils réalisent soudain que s'ils cassent complètement l'économie de la création humaine, leurs propres algorithmes mourront de faim.
C'est l'arroseur arrosé à l'échelle mondiale.
Si on résume un peu la carte de ce champ de bataille qu'on vient de peindre, on a des modèles économiques colossaux qui dépendent aujourd'hui d'un moissonnage sauvage. Face à ça, l'Europe brandit enfin la menace de la transparence totale avec sa résolution de 2026 et veut faire de l'EIPO le gendarme des licences. Et la France, fatiguée des demi-mesures de l'IA Act, dégaine sa présomption d'exploitation pour forcer les développeurs à ouvrir leur fameuse boîte noire sous peine de condamnation immédiate.
C'est une vraie tentative très acharnée de remettre l'humain au centre de la boucle économique.
Oui, et cette démarche aura sûrement des répercussions bien au-delà de nos frontières européennes, car elle force l'industrie mondiale à repenser la valeur même de la donnée. Ce qui était considéré jusqu'à hier comme une ressource infinie et gratuite, comme l'air qu'on respire, est en train de redevenir ce qu'elle a toujours été au fond.
C'est-à-dire le fruit d'un travail humain.
Voilà. Un travail humain qui a un coût, qui prend du temps et qui mérite salaire.
Tout à fait.
Et ça nous amène à une réflexion finale, un peu troublante, quand on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient d'analyser aujourd'hui.
Je t'écoute.
Imaginons que demain, ces lois européennes et françaises s'appliquent avec une sévérité absolue. Que toutes les intelligences artificielles du monde soient obligées, par décision de justice, de purger complètement de leur cerveau algorithmique la moindre trace d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour repartir d'une page blanche.
Le grand reset.
Exactement. Si on débranche cet accès illimité à des siècles de génie humain, est-ce que ces machines perdront instantanément leur capacité miraculeuse à écrire des poèmes, à coder des logiciels ou à peindre des tableaux ?
C'est une vraie question.
Et si c'est le cas, est-ce que cela ne révélerait pas la plus grande illusion de notre époque ? À savoir que ces intelligences artificielles n'ont en réalité jamais rien inventé par elles-mêmes et qu'elles n'étaient au fond que de gigantesques et brillants miroirs tendus vers notre propre créativité humaine. C'est une question qu'on laisse en suspens. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.